Le jour où les disciples de Jésus ont reçu cette nouvelle, ils ont été extrêmement découragés et inquiets aussi. Jésus a été extrêmement attristé et il s'est retiré avec ses disciples à l'écart. Il s'est éloigné des foules, il s'est éloigné aussi du bord du lac de Galilée qui est toujours agité par beaucoup d'activités. De nombreuses questions sont venues à l'esprit des disciples. Ils se demandaient, mais enfin, pourquoi donc Jésus n'a-t-il rien fait pour son cousin Jean-Baptiste ? Il avait reconnu devant tout le monde que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Il est allé lui-même vers Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste le baptise. Mais lorsque Jean-Baptiste a été fait prisonnier pour sa foi, Jésus n'a rien fait. Pourtant, Jésus faisait des miracles constamment pour ceux qui l'entouraient. Mais pour Jean-Baptiste, il n'a rien fait. Et les disciples se demandaient, mais pourquoi donc Jésus ne fait-il rien pour Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, d'ailleurs, dans sa prison, avait eu ses moments de doute. Il avait envoyé ses propres disciples auprès de Jésus pour savoir, es-tu celui que nous attendons ou devons-nous en attendre un autre ? Découragé dans sa prison, Jean-Baptiste se demandait si il ne s'était pas trompé. Et Jésus a répondu à Jean-Baptiste par l'intermédiaire de ses disciples, « Regarde tous ces gens qui sont libérés de la maladie, du mal, du diable, de leur péché. » Tous les exemples de ces miracles libérateurs que Jésus faisait autour de lui, c'est ce que Jésus a donné comme témoignage pour Jean-Baptiste. Mais tous ces gens avaient été libérés et Jean-Baptiste était resté en prison. Et ce jour-là, la veille du fameux miracle de la multiplication des pains, les disciples de Jésus reçoivent cette nouvelle que Jean-Baptiste a simplement été décapité dans sa prison. Pour eux, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, cette nouvelle est terriblement décourageante parce que, n'oubliez pas, certains des disciples de Jésus avaient été avant des disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient laissé Jean-Baptiste convaincu que Jésus était le Messie et l'avait suivi. Et voilà qu'aujourd'hui, leur ami Jean-Baptiste est décapité pour sa foi. Jésus est attristé, il le voit bien, mais Jésus n'a rien fait. Jean-Baptiste avait condamné Hérode et Hérodias. Hérode Antipas était marié, mais il avait divorcé et il avait pris à la place la femme de son demi-frère, Philippe. Hérode Antipas était le fils d'Hérode le Grand. Il était gouverneur de la Galilée. Mais Jean-Baptiste s'était prononcé contre les actions de Hérode et lui avait dit « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Cette femme était un peu particulière, légère. Et ainsi, Hérodias, qui était la nouvelle femme de Hérode Antipas, en était arrivé à haïr profondément ce prophète qui mettait le doigt sur leur péché. Hérode lui entendait volontiers ce que Jean-Baptiste avait à dire. Il se rendait compte que cet homme était particulier. Il n'avait pas dans le fond de son esprit de difficulté à comprendre que c'était un prophète. Mais Hérodias voulait vraiment le faire taire pour toujours. Mais elle n'avait pas les moyens de le faire. Alors, elle a profité de l'occasion lorsque on a célébré l'anniversaire de Hérode. Il a organisé une grande fête. Et il a organisé la fête pour son anniversaire dans la forteresse de Machéronte. Cette forteresse se situe environ à 10 km à l'est de la côte orientale de la mer Morte. Mais c'est justement dans cette forteresse-là que Jean-Baptiste était enfermé. Dans les dépendances de cette forteresse immense que Hérode le Grand, son père, avait restaurée, Hérode Antipas organise une grande fête avec tous ses amis et tous ses chefs. Évidemment, avec la fête, on boit, on mange, on danse, etc. Et lorsque tous ces gens avaient bien bu, Hérodias va envoyer sa fille Salomé pour danser devant tous ces gens. Et comme s'il n'avait pas été encore suffisamment enivré par le vin, tous ces gens vont être enivrés par la danse sensuelle de cette fille. Hérode lui-même, étourdi par le vin et par la danse, va proposer généreusement devant tout le monde que cette jeune fille demande ce qu'elle veut et cela lui sera accordé. La jeune fille, étonnée, ne sait pas ce qu'il faut demander. Elle court chez maman et la réponse est toute prête. Demande tout de suite, maintenant, la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. La jeune fille n'y voit pas d'inconvénient et c'est ce qu'elle va demander. Et vous pouvez imaginer le sentiment bizarre qui d'un seul coup va envahir la salle de la fête quand la jeune fille qui vient de danser si élégamment vient demander à son parent, Hérode Antipas, Hérodias est la nièce d'Hérode, elle vient demander « Je veux maintenant, tout de suite, sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste. Il est prisonnier dans la même forteresse. » Un froid immense parcourt la salle et Hérode se rend compte qu'il a été pris au piège. Parce que devant sa grande générosité, maintenant, il ne peut pas revenir en arrière et dire « Écoute, non, tu sais, Jean-Baptiste, après tout, c'est mon ami, mais puis voilà. » Non, pas question de revenir en arrière, son honneur est en jeu. Il va donc, à contre-cœur, envoyer ses gardes pour exécuter Jean-Baptiste. Et on va apporter le cadeau macabre sur un plat. Hérodias est satisfaite. Hérode est mal avec lui-même, mais la fête continue. Et les disciples viennent d'apprendre que Jean-Baptiste a été exécuté à cause de sa fidélité à Dieu, à cause du témoignage qu'il a rendu, à cause de la droiture de sa prédication. Et ils se demandent sans aucun doute, va-t-il nous arriver aussi la même chose si nous sommes fidèles comme Jean-Baptiste l'a été ? Maintenant, la parole de Dieu nous dit que toutes ces choses ont été rapportées pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Cette page lugubre de l'existence de Jean-Baptiste contient des enseignements très précieux pour nous qui vivons à la fin des temps. Ces personnages impliqués dans cette histoire et dans cet événement sont aussi des personnages symboliques représentant d'autres choses à la fin des temps. Et j'aimerais avec vous regarder cette histoire à la lumière de la prophétie. Jean-Baptiste, Jésus va parler de lui. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, au verset 11, il est dit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Et un petit peu plus loin, au verset 13, il est dit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Jésus est en train de dire, à la stupéfaction d'ailleurs de ceux qui sont là, si vous voulez bien comprendre, Jean-Baptiste c'est l'Élie qui devait venir. Et il fait en cela référence à une prophétie de l'Ancien Testament que nous allons regarder ensemble dans le livre du prophète Malachie. Après avoir annoncé que le témoignage de Moïse sera important à la fin des temps et qu'il est important de s'en souvenir, Malachie dit ceci de la part de Dieu. Malachie chapitre 4 verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et ainsi s'achève l'Ancien Testament. Jésus est en train de dire, Jean-Baptiste, qui est à ses yeux le plus grand des prophètes, c'est lui l'Élie qui devait venir. Jésus dit, c'est la réalisation de la prophétie de Malachie. Mais cette réalisation n'est pas complète parce que Malachie dit que cet Élie viendrait juste avant le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable que nous comprenons comme étant le jour du jugement de Dieu. Jean-Baptiste n'est pas venu juste avant le moment du jugement final. Ainsi, Jésus donne une application partielle de cette prophétie en disant « Jean-Baptiste est une application de cette prophétie ». Mais il y aura une autre application à la fin des temps. Une application qui couvrira toutes les informations que donne la prophétie de Malachie. Il y aura donc à la fin des temps un autre Élie qui aura une mission semblable à celle de Jean-Baptiste, mais qui ne sera pas de préparer la première venue de Jésus, mais de préparer la deuxième. Un Élie, un Jean-Baptiste, qui apportera au monde ce témoignage en disant « Arrêtez de clocher des deux pieds, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Pourquoi ? Parce que l'heure de son jugement est venue et qu'il est nécessaire maintenant de savoir qui vous voulez adorer. Et vous entendez dans cela un langage très apocalyptique. Ainsi, Jean-Baptiste, qui est le messager du Seigneur, celui qui va ouvrir la voie pour le ministère de Jésus, est une image de cet Élie qui a existé avant, mais de cet Élie qui existera encore à la fin des temps et qui aura pour mission d'annoncer au monde la deuxième venue de Jésus et de proposer au monde d'observer les commandements de Dieu et de garder la foi de Jésus. C'est le ministère, je crois, aujourd'hui, de tous ceux qui ont à cœur de se préparer pour le retour de Jésus, de mettre en évidence la valeur des commandements de Dieu, les 10, pour se préparer à son retour et de vivre la foi de Jésus-Christ. Jean-Baptiste a donc, à la fin des temps, sa contrepartie dans l'Église de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Maintenant, Hérode, dans cette histoire que nous avons regardée aujourd'hui, est un représentant de l'autorité civile et politique. Il est le gouverneur. Il a le pouvoir civil dans cette région-là. Ainsi, à la fin des temps, il y aura aussi des lois, des gouvernements, des gouverneurs, des États investis d'une autorité civile et politique. Et puis dans notre histoire, il y a Hérodias. Hérodias, la femme adultère, la femme légère, la femme infidèle. Dans les Écritures, la femme représente le peuple de Dieu. J'aimerais regarder avec vous un passage dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54. Un de ces nombreux passages où le peuple de Dieu nous est présenté de cette façon-là. Ésaïe chapitre 54, nous lirons le verset 5. « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Si Dieu, le Créateur, est l'époux du peuple de Dieu, ce peuple est l'épouse. » Tout le livre d'Osée, d'ailleurs, est construit sur cette image. Le livre de l'Apocalypse prend la même image au chapitre 19. Regardons ensemble, voulez-vous, le verset 7. Apocalypse, chapitre 19, le verset 7 dit ceci. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. La femme, le peuple de Dieu. Après Jésus-Christ, la femme, ce sera une image de l'Église. Ainsi, dans l'Apocalypse, nous retrouvons le symbole de la femme. Nous l'avons vu dans ce texte, l'épouse qui s'est préparée pour les noces de l'agneau. Mais dans l'Apocalypse, nous trouvons aussi une autre femme, la femme adultère, la femme infidèle. Autrement dit, l'Église qui n'est pas fidèle, l'Église qui ne se prépare pas au retour du Christ, l'Église qui ne garde pas les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et dans le contexte de l'histoire de l'exécution de Jean-Baptiste, je vous propose de lire ce qui nous est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, et nous lirons à partir du premier verset. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta ensuite en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abomination et d'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Y a-t-il dans ce passage des choses qui résonnent à votre esprit comme ressemblant à ce que nous avons vu dans l'histoire de l'exécution de Jean-Baptiste? Hérodias, c'est cette femme infidèle, condamnée par le prophète parce qu'elle n'est pas fidèle, et qui représente justement l'Église qui n'est pas fidèle à la fin des temps, et qui a pour caractéristique ce que le livre du prophète Daniel présente d'ailleurs au chapitre 7, comme une puissance persécutrice à la fin des temps. Ainsi, Hérodias représente effectivement cette femme qui est ivre du sang des saints, cette femme qui veut faire taire le prophète pour toujours. Mais vous avez remarqué, elle est assise sur une bête écarlate dans la prophétie que nous avons lue. En réalité, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, nous retrouvons ces deux notions. Deux bêtes sont présentées. La première, c'est effectivement cette bête qui s'appelle Babylone et qui, de par son nom, nous indique qu'elle fonctionne selon le plan du salut par les œuvres et par la tradition humaine, non pas par le salut par la foi. La deuxième bête, elle est très, très différente de la première. C'est une bête, à l'inverse des autres bêtes qui représentent des nations et des puissances, cette bête-ci, à partir du verset 11, est une bête qui sort de la terre. Elle a une situation différente et elle apparaît dans l'histoire après que la première bête ait été blessée mortellement. La première bête, nous a-t-il dit, va exercer cette puissance pendant 1260 années. Après ces 1260 années, elle va être blessée. Elle va perdre sa puissance. Alors, une autre puissance va émerger. Une puissance aussi religieuse qui est présentée avec deux symboles. Et l'agneau et le dragon. Deux symboles opposés parce que l'agneau, c'est Christ. Et le dragon, c'est Satan. Une puissance qui va démarrer en parlant comme l'agneau, mais qui finira par parler comme le dragon. Et nous reconnaissons dans cette puissance, à cause du temps qui est donné et des caractéristiques qui lui sont présentées, comme étant la puissance des États-Unis, qui s'élève tardivement dans l'histoire de l'humanité. Mais alors que la première bête perd sa puissance, elle est à la recherche d'une autre puissance pour accomplir son œuvre. C'est là que la deuxième bête se propose pour accomplir ses services. Et nous comprenons maintenant dans ce contexte le sens des versets dans Apocalypse chapitre 13, le verset 15, où il est écrit ceci. « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, livres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Vous remarquez ici que cette première puissance religieuse, ayant perdu sa force, va chercher la force d'une puissance politique pour accomplir ses desseins. C'est ce que nous avons vu au chapitre 17. Cette femme prostituée, cette église apostate, est montée sur une bête, une puissance politique, pour accomplir ses desseins. Et c'est en réalité exactement ce que nous avons dans cet épisode de l'exécution de Jean-Baptiste. Hérodias n'a pas le pouvoir d'exécuter Jean-Baptiste. Elle va simplement utiliser le pouvoir politique pour accomplir ses desseins. Elle va utiliser Hérode, le gouverneur. Mais il y a, pour réussir dans son entreprise, un intermédiaire. Nous avons lu dans le chapitre 17 de l'Apocalypse le nom de cette femme. Un mystère, nous dit le texte. Apocalypse chapitre 17, verset 5. « Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Elle a des enfants. Elle a des filles. Cette église a des filles. qui elles aussi sont dans la prostitution spirituelle, c'est-à-dire dans l'infidélité par rapport à la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Ézéchiel, il nous est parlé de ce dicton que nous employons d'ailleurs encore aujourd'hui, au chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, le verset 44. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Et il est là question, effectivement, encore une fois, de Jérusalem et du peuple de Dieu. Telle mère, telle fille. Ainsi, dans l'Apocalypse, cette femme avait des filles, des églises qui sont sorties d'elle, mais qui ne sont pas non plus fidèles à la parole de Dieu. Et l'histoire nous montre que la réforme a produit aussi d'autres églises qui sont sorties de l'église traditionnelle, mais qui n'ont pas non plus persévéré dans l'obéissance au commandement de Dieu. C'est le symbole de Salomé, la fille d'Hérodias. C'est par elle, par son intermédiaire, qu'Hérodias va réussir à utiliser le pouvoir politique d'Hérode pour accomplir son dessein de faire taire Jean-Baptiste. De la même manière, à la fin des temps, ce seront les filles de la grande prostituée qui seront utilisées comme intermédiaires pour se saisir du pouvoir politique de la deuxième bête du chapitre 13 de l'Apocalypse, pour persécuter les saints des derniers jours. Cette image de l'exécution de Jean-Baptiste, même si elle s'est réellement produite dans la vie de cet homme, devient finalement, à la fin des temps, une image, un type de ce qui se passera dans les derniers jours. Et je crois que nous sommes arrivés dans ces derniers jours parce que le monde d'aujourd'hui emploie un vocabulaire tellement semblable à ce que la prophétie nous donne qu'il est difficile de manquer les signes des temps. Écoutez ceci. Le pape Léon XIII, dans une encyclique écrite en 1885, écrit ceci. Tous les catholiques devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que les constitutions des États et les lois soit modelé sur les principes de la vraie Église. Les écrivains et journalistes catholiques ne devraient jamais perdre de vue cette prescription. Ça veut dire que tous les États, dans leur constitution et dans leur loi, devraient suivre les indications de l'Église. Cela sous-entend que la séparation de l'Église et de l'État n'existe plus. Jésus n'a-t-il pas dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » Le cardinal James Gibbons, cité dans un livre « Civil Government and Religion » by A.T. Jones, écrit ceci. « Je suis très heureux d'ajouter mon nom aux millions d'autres personnes qui s'opposent très honorablement à la violation du sabbat chrétien, entendez le dimanche, et qui cherchent à promouvoir son observation de manière décente par le moyen de lois appropriées. Faudra-t-il des lois appropriées pour obliger les gens à observer un jour particulier ? Plus près de nous dans l'histoire, j'aimerais citer un texte de Ralph Reed, une figure importante du monde évangélique, qui écrit ceci. Écoutez bien. Le vote des catholiques détient la clé du futur. Je crois que si les catholiques et les chrétiens évangéliques, les protestants qui partagent leur opinion sur la vie humaine, la liberté religieuse, les écoles, les valeurs morales fondamentales. Je crois, dit-il, que si les catholiques et les évangéliques peuvent s'unir, alors aucune personne ne pourra se présenter aux élections dans une ville ou dans un État des États-Unis et être élu sans leur accord. Et aucune loi ne pourra être approuvée par le Congrès ou une assemblée législative aux États-Unis. C'est un fait marquant dans l'électorat d'aujourd'hui. Le pape, continue-t-il, parle de la hiérarchie des doctrines. Père Robertson a déclaré, et il le cite, « Il est clair que certains enseignements sont plus importants que d'autres et il doit y avoir un accord sur les points essentiels pour pouvoir laisser une grande latitude pour les autres points moins importants de la foi. » Maintenant, dans le livre Tragédie des siècles, vous connaissez sans aucun doute le passage suivant. Et il est difficile de ne pas faire le lien entre ces deux vocabulaires employés dans ces deux citations. Tragédie des siècles, page 482 dit ceci. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et les conséquences inévitables en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Vous entendez là, bien entendu, le texte de l'Apocalypse chapitre 13 que nous avons regardé tout à l'heure. C'est dire à quel point, aujourd'hui même, la grande préoccupation de ces gens est de détruire le mur de séparation entre la religion et le pouvoir civil, entre l'Église et l'État. Des gens travaillent très fort pour éliminer cette séparation. Certains parlent de cette séparation entre l'Église et l'État comme d'une séparation diabolique. Et cela nous dit à quel point ils sont déterminés à la supprimer. Et lorsque cela sera fait, l'image de la bête sera reproduite parce que ce sera la même méthode. Utiliser la force et la force civile pour imposer des lois religieuses. Nous comprenons finalement que la prophétie, que ce soit la prophétie de Daniel de l'Apocalypse, ou les événements prophétiques au travers des situations typologiques que nous avons dans les évangiles, nous annoncent très clairement que nous sommes arrivés dans ces temps de la fin. L'histoire que nous avons regardée aujourd'hui, l'histoire de l'exécution de Jean-Baptiste, reprend finalement exactement les mêmes éléments qui seront dans le scénario de la fin des temps, où l'Église, qui n'observe pas les commandements de Dieu, utilisera ses filles de la réforme pour manipuler le pouvoir politique et arriver à ses fins. Là où le récit de Jean-Baptiste diverge maintenant avec la fin des temps, c'est que nous avons aussi des prophéties qui nous disent ce que Dieu fait lorsque le diable intervient. Et j'aimerais vous inviter à regarder dans le psaume 91 ce que le psalmiste de la part du Seigneur nous dit par rapport à cette période justement. Dans le psaume 91, il nous est dit au verset 14 et 15, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Le Seigneur agit, et il agit aujourd'hui en nous faisant connaître comment le monde va avancer. Il ne fait connaître ces choses à ceux qui veulent bien le recevoir avec le cœur. Jésus avait d'ailleurs prévenu ses disciples que beaucoup ne comprendraient pas à la fin des temps ce qui se passe. Jésus lui-même l'a dit au prophète Daniel dans le dernier chapitre de son livre. Les gens ne comprendront pas, sauf ceux qui ont reçu l'intelligence de Dieu pour discerner les temps de la fin. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, j'aimerais relire cette parole de Jésus au verset 25. Curieusement, Jésus dit ceci dans le même contexte que ce à quoi nous avons fait allusion tout à l'heure. Quelques versets plus tôt se trouvent les versets où Jésus dit que Jean-Baptiste est précisément l'Élie qui devait venir. Et juste après, au verset 25, il dit ceci. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Je souhaite que nous soyons ces enfants qui savent comprendre ce que Dieu a à leur dire. C'est pourquoi ce que Jésus disait à ses disciples me paraît aujourd'hui l'encouragement dont nous avons besoin. Cette parole qui est rapportée par l'évangéliste Luc au chapitre 21 de son livre où Jésus dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car la délivrance approche. » Amen.